Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 13 au verset 9? 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 9. Nous y sommes. Alors il est écrit ceci. Nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée. Nous avons vu pendant 5 semaines... la puissance de la prière. Dis avec moi la prière. Et aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que tout ce qui nous inspire, il le fait toujours dans un ordre bien précis. Parce que c'est un voyage qu'on fait avec lui. Et il est en train de nous emmener étape par étape vers le but qu'il s'est fixé. Et aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée et on va rentrer sur ce point-là. La maturité spirituelle dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi la maturité spirituelle dans le royaume? Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Il y a une autre version, la version parole vivante, qui est encore plus précise. Elle dit ceci, nous sommes contents de paraître faibles, pourvu que vous soyez réellement forts. C'est justement ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, que vous trouviez le chemin de la véritable maturité chrétienne et que vous y marchiez de progrès en progrès. Que vous trouviez le chemin de la véritable maturité spirituelle et que vous y marchiez de progrès en progrès. La prière est très importante. La prière est très importante pour entrer en possession des promesses divines dans notre marche chrétienne. Si nous ne prions pas, c'est difficile de grandir. C'est difficile de marcher avec Dieu. C'est difficile d'entrer en possession des promesses qu'il a pour nous. Mais la particularité de la marche chrétienne, c'est qu'on grandisse. Dis avec moi, il faut grandir. J'ai prié pendant plusieurs jours et j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, où est-ce que tu nous emmènes ?» Voici, dans 3 mois, nous sommes en octobre, novembre et décembre, c'est la fin de l'année. Ce que Dieu fait, il nous fait avancer step by step, étape par étape. Et Le but principal de Dieu, c'est qu'on arrive à la perfection. C'est qu'on grandisse. Le sujet que je vais ouvrir là, on va y rester pendant un bon moment. Et tous les points qu'on a abordés durant les mois précédents nous ont préparés à ce sujet-là. Un enfant de Dieu qui ne grandit pas dans le Seigneur est un enfant de Dieu qui va vivre misérable toute sa vie. Un chrétien qui ne grandit pas spirituellement est un chrétien qui ne peut pas jouir de l'héritage qu'il a en Christ sur la terre. Un chrétien qui ne s'affermit pas dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, pour acquérir la sagesse, l'intelligence et la connaissance de Dieu au travers de sa parole, est un chrétien qui ne peut pas expérimenter Dieu comme il le devrait. Aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de gens qui fréquentent les églises, mais qui ne sont pas matures spirituellement. Vous voyez des gens qui sont dans l'église depuis des années, mais quand vous parlez avec eux, on dirait que vous avez affaire à un nouveau-né. Et ça, c'est très dangereux. Il y a une différence entre les enfants, entre l'enfant et l'adulte. La différence entre les deux, c'est que l'adulte est plus mature. L'enfant, il ne s'intéresse qu'à lui, qu'à ses intérêts et à son confort. Et ça aussi, on va y revenir durant plusieurs semaines. Dis avec moi la maturité spirituelle. Et si le Seigneur a attiré mon attention sur ce point, c'est parce que le Seigneur veut nous faire passer un message. Le Seigneur veut nous faire passer un message très important. Je vous assure, je connais l'appel de cette église. Je connais l'appel de l'église. Et je sais où Dieu va emmener cette église. Le problème, le défi maintenant à relever, c'est d'amener maintenant les personnes qui sont censées être des personnes stratégiques entre les mains de Dieu demain à comprendre leur véritable rôle et leur véritable identité. Et si vous ne saisissez pas ça, vous allez passer à côté de quelque chose. Dis avec moi, il faut grandir. Nous sommes dans des temps spirituels, dans cette nation, où nous avons besoin d'hommes et de femmes matures. Des gens matures qui peuvent se lever dans la prière, qui peuvent se lever et aller travailler dans différentes sphères d'influence dans le pays, et des gens qui peuvent être confrontés à des situations, mais qui peuvent tenir ferme parce qu'ils sont matures. Dieu n'envoie pas les bébés en guerre. Dieu envoie des soldats. Ce sont les soldats qui vont en guerre. Les enfants ne vont pas en guerre. Le problème avec l'église, c'est qu'il y a trop d'enfants. Ballottés à tout vent de doctrine. Vous n'avez pas vu que depuis la semaine dernière, on commence à tirer sur les églises? Vous n'avez pas vu dans l'Union, les premières pages, hier, avant-hier encore, l'église qu'on a fermée. Et la semaine d'avant aussi, il y avait une église aussi qu'on avait fermée. Vous pensez qu'il s'agit de quoi? La machine est en marche. Vous ne vous rappelez pas, il y a quelques mois, je vous avais dit que le ministre de l'Intérieur nous avait convoqué. Si l'église dort, on va vous faire ça dur. Mais au nom de Jésus, ils sont vaincus. Amen. Ce n'est pas les enfants qu'on envoie au front, ce sont les soldats. Et le soldat, c'est celui qui est mature. Ce n'est pas l'enfant qui prend possession de l'héritage, c'est le fils adulte et mature qui prend possession de l'héritage. Un enfant reste un enfant. Et depuis le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, le plus grand souhait de Dieu, c'est qu'on grandisse. Dis avec moi, il faut grandir. Il faut grandir. Aujourd'hui, quand on regarde l'état des églises à Libreville, il y a trop d'immaturité. Trop. Heureusement, pas chez tout le monde. Heureusement, il y a quand même des gens qui font des efforts et qui travaillent pour le royaume. Il y en a. Mais je vous assure, je suis désolé de le dire ainsi, mais l'église à Libreville et au Gabon en général est malade. Je vous le dis, hein. L'église est malade. L'église n'est pas à sa place. L'église ne joue pas son rôle parce qu'il y a trop d'enfants. Quand vous entendez, comme le pasteur de la semaine dernière, que l'on a attrapé, il voulait épouser sa victime qu'il avait violée, quand vous entendez ça, c'était un pasteur, soi-disant. Il a violé quelqu'un dans l'église et il voulait ensuite l'épouser. Mais regardez un peu l'histoire sale que c'est. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un de mature. Pour moi, c'est un bébé à qui on avait donné le micro, qui est venu faire le désordre dans l'église. Ça, c'est un bébé. Mais quand vous voyez un pasteur qui fait des choses comme ça dans l'église, spirituellement, les gens qui sont assis tous les jours dans l'église avec eux là, ils ont un problème. Parce qu'une église qui prie, sérieusement, Dieu expose. Dieu aime trop son peuple pour laisser son peuple se faire frapper comme ça. Maintenant, après, bon, on ne maîtrise pas tout. Mais, n'empêche que Dieu expose toujours. Dieu expose toujours. Tu ne peux pas te cacher longtemps. Dieu expose toujours. Et quand on voit des hommes de Dieu qui font des choses comme ça, c'est parce que ce sont des bébés à qui on a donné des micros. La seule différence, c'est que ce sont des bébés qui parlent bien, soi-disant. Dis avec moi la maturité spirituelle. Et s'il y a bien une prière qu'on doit tout le temps demander à Dieu, oui, c'est Seigneur, fais-moi connaître ta volonté, oui, mais c'est surtout Seigneur, accorde-moi la grâce de grandir, de croître. La Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 2 que Jésus-Christ croissait en stature, en grâce et en sagesse. À l'âge de 12 ans, il grandissait. À plus forte raison, nous. Et là, ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est justement ce que nous demandons à Dieu dans nos prières. Que vous trouviez le chemin de la véritable maturité. S'il y a bien une chose qui pourrait... S'il y a bien une chose qui pourrait réjouir le plus possible, le plus le cœur d'un père, c'est de voir son enfant grandir. Un enfant qui ne grandit pas, c'est une cause de chagrin pour son père. Quand un enfant reste immature, demain, si vous avez des enfants, pour ceux qui en ont déjà, ils comprennent, et puis l'enfant lâche pas, s'il grandit, il grandit, vous voyez, il se comporte toujours comme un gamin. À l'âge de 28 ans, au lieu de commencer à penser à construire sa maison, son foyer, il est toujours dans les boîtes de nuit. Pour vous, ça vous donne des maux de tête. Il n'est pas responsable. Il est immature sur les choses importantes de la vie. Il ne prospère pas. Quand on dépense de l'argent, on investit sur lui pour qu'il fasse de bonnes études. On découvre qu'il sèche les cours. Ce genre d'enfants, c'est les enfants qui donnent... Ils sont comme des caries, la Bible dit dans le livre des Proverbes, ils sont comme des caries pour leur papa. Alors qu'un père, ce qu'il désire, c'est de voir son enfant grandir, et puis un jour, l'enfant s'en va pour construire sa propre maison. Et Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on grandisse et qu'on entre en possession de notre héritage. Amen. Et il n'y a pas de plus grande joie pour un père que de voir son enfant devenir mature dans les choses de la vie. Le mot perfectionnement ici, le mot perfectionnement que Paul traduit par que la version parole vivante plutôt traduit par la véritable maturité. La version traduction libre dit ce que nous demandons dans nos prières, c'est que vous deveniez mature. Ça, c'est une autre version qui dit ça. C'est que vous deveniez mature. Le mot perfectionnement traduit encore par mature ici, c'est le mot grec catartizo. Dis avec moi catartizo. Dis encore catartizo. C'est un mot qui est compliqué à catartizo. Tu vas comprendre pourquoi c'est compliqué à prononcer ce mot catartizo. Je t'annonce une très bonne nouvelle aujourd'hui. Tu vas devoir t'habituer très vite à ce mot parce que cette nuit à 3h du matin, Dieu m'a montré quelque chose par rapport à ce mot catartizo. Dis avec moi catartizo. Maintenant, on va dire que les gens là parlent une nouvelle langue, catartizo. Catartizo. À la maison du bâtisseur, on va maintenant parler le catartizo. Hein? Là, à côté, on parle le Mienel, le Bateke, le Njebi. À la maison du bâtisseur, on parle le catartizo. Dis avec moi catartizo. Les enfants ont déjà compris. Catartizo. Et voici ce que veut dire catartizo. Traduit ici par mature. Catartizo, grec, veut dire parfait. Ça veut dire parfait ou encore pleinement équipé ou encore préparé, pleinement disposé, instruit ou encore fini, terminé. Plus rien à faire, il est fini, produit fini, mis en boîte. Catartizo, dis avec moi catartizo. parfait. C'est un mot qui est très important dans la Bible. Parce que ce mot veut dire mature. Voici ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 12, au verset 29. Et vous, Luc 12, au chapitre 12, au verset 29, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt quoi ? Le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Jésus-Christ est en train de nous dire ici que notre priorité dans la vie, c'est de ne pas chercher le manger et le boire et les choses élémentaires de la vie, mais de chercher ce qui est essentiel pour notre vie, le royaume de Dieu. Voici le premier signe de maturité chez un enfant de Dieu, c'est sa recherche passionnée pour le royaume de Dieu. Dis avec moi, catharthizo. Le véritable disciple de Christ est celui qui cherche d'abord ce qui plaît au Père. Il ne s'inquiète pas des choses de la vie et recherche toujours à faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, la principale prière de Dieu, si je peux dire ça ainsi, c'est que nous grandissions et que nous arrivions à la maturité spirituelle. Dis avec moi la maturité spirituelle. Le thème de cette année, c'est à la conquête des promesses. Sache qu'il y a des promesses divines dans la vie, même si tout est accompli à la croix de Jésus-Christ. Il y a des promesses que tu ne pourras pas expérimenter dans ta vie si tu ne grandis pas. Même dans le naturel, tu ne vois pas qu'il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter dans la vie tant que tu n'as pas atteint un certain niveau. Un jeune, une jeune fille qui n'a pas fini l'école, elle ne peut pas connaître certaines joies de la vie tant qu'elle ne commence pas à travailler, par exemple. Imagine une jeune femme, une jeune fille de 15 ans qui vient voir ses parents et puis qui dit « Maman, je vais me marier demain. » Ils vont dire « Tu es devenue folle. » Pourtant, le mariage, c'est quelque chose de joyeux. Sauf que ce n'est pas la saison. Mais cette jeune fille-là, si elle prend du retard dans sa vie ou si elle cause par son comportement des choses qui retardent la saison du mariage, elle ne pourra jamais se marier. Parce que tout simplement, elle n'est pas prête pour expérimenter ça. De même, si elle entre trop tôt dans le mariage qui est censé être une grande joie pour elle, va être un enfer pour elle. Parce qu'elle n'était pas catharthizo, prête pour le mariage. De même, un jeune garçon qu'on envoie à l'école pour le préparer à la saison du travail, à la saison où il va commencer à produire, à gagner sa vie de sa sueur, de sa transpiration, avoir un salaire, etc. Ce garçon décide d'abandonner l'école. Et il dit, oh, j'en ai marre de l'école, j'arrête. Et il va travailler. Et parce qu'il n'a pas de diplôme, même pas le bac, il se retrouve manœuvre. Je ne sais pas moi, maçon, je ne sais rien. Il va souffrir toute la vie à chercher toujours les 20 000 francs, les 30 000 francs, les 20 000 francs, les 30 000 francs. Parce qu'il est rentré dans la saison du travail trop tôt. Dis avec moi, catharthizo. Il n'était pas prêt. La maturité spirituelle obéit à un processus, on va le voir plus loin, un processus qu'il faut respecter. Il y a des choses dans la vie, des joies dans la vie, des expériences dans la vie qu'il faut expérimenter au bon moment. Si tu expérimentes certaines expériences trop tôt ou trop tard, elles seront amères pour toi. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, tout ce qui fait notre bonheur dans la vie, Jésus-Christ nous dit, ça se trouve dans le royaume. Tout ce qui fait notre bonheur se trouve dans le royaume. Et c'est pour cela qu'il nous dit de chercher d'abord le royaume. Mais qu'est-ce que ça veut dire chercher le royaume? Le royaume, ce n'est pas une voiture qui est là garée dehors. Le royaume, c'est un système, un environnement spirituel dans lequel il y a un certain nombre de bénéfices, de joie, de moments, tout ce qui compose notre héritage en Christ. Mais toutes ces expériences-là, tous ces bienfaits, tous ces bénéfices qui se trouvent dans le royaume de Dieu, on ne peut entrer en possession de ça que si on possède les bonnes clés. Les grâces. Dans le royaume de Dieu, il y a des grâces. Et ces grâces-là, on ne peut les expérimenter que si on est suffisamment mature, qu'on a la connaissance de Dieu, de sa parole et de ses principes, et qu'on peut entrer en possession de ça. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit « Tout est accompli ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il y a des choses que Dieu ne fait plus. Jésus-Christ ne viendra pas mourir une deuxième fois sur la croix, je vous rassure. Il viendra pas mourir une deuxième fois. Il y a des choses, tu peux prier, supplier, pleurer, te rouler par terre, te cogner la tête contre le mur, Dieu ne bougera pas. Parce que tu es encore un enfant.
Je veux les bonbons! Je veux les bonbons!
Papa, il te regarde seulement, il dit pleure mon fils.
Je veux les bonbons! Je veux la guérison, le mariage! Je veux!
Dieu est là, il ne bouge pas. Il dit catartizo. Faut que tu sois prête. C'est pour ça que les disciples ont compris qu'ils n'étaient pas catartizo et ils ont dit à Jésus, Seigneur, augmente notre foi, s'il te plaît. Parce que si tu n'augmentes pas notre foi, il y a des choses là qu'on ne peut pas comprendre. Ah, Jésus. Amen. Au lieu de chercher le manger et le boire, comme font les païens, dit Jésus, et il nous dit de chercher le royaume. Parce que celui qui poursuit le royaume, celui qui a soif du royaume, va tout faire pour découvrir ce royaume-là, comprendre ce royaume-là, comment il fonctionne. Il va être passionné de Dieu, il va être passionné de la parole de Dieu, il va grandir en connaissance, il va grandir en sagesse, il va apprendre beaucoup de choses qui vont le rendre encore plus fort et plus intelligent dans les choses de Dieu, et il pourra entrer en possession de ça. La différence entre celui qui est immature et celui qui est mature, par exemple, en ce qui concerne l'argent, quelqu'un qui est fauché, par exemple, et qui n'est pas catartizo, qui n'est pas mature, il va être en panique, il va s'énerver, je n'ai pas d'argent, c'est pas normal, etc., j'en ai marre, au lieu de prier. Celui qui est catartizo, celui qui est parfait, celui qui a la stature de Christ, il est serein. Il est serein. Il va se demander, est-ce que c'est une épreuve par laquelle Dieu me fait passer pour m'enseigner quelque chose, ou bien pour forger mon caractère, ou bien est-ce moi-même qui ai causé cette situation de sécheresse financière dans ma vie en posant un acte? Peut-être qu'alors je dois réviser mon comportement et voir ce que je peux faire. Ou bien est-ce que tout simplement il n'y a rien, je n'ai tout simplement pas la bonne clé. Il faut que j'active la bonne clé pour pouvoir créer de la richesse financière dans ma vie. Donc, il va s'asseoir dans le calme et dans la paix et il va prier. Il va dire, Dieu, qu'y a-t-il? Parle-moi. Parle-moi. Isaac, dans la Bible, n'avait pas d'argent. C'était la sécheresse dans le pays. Les gens qui ne sont pas catartizos, qui ne sont pas en Christ, qui sont des païens, qui cherchent d'abord le manger et le boire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'en allaient, ils allaient tous en Égypte. Isaac, heureusement qu'il était quelqu'un, Genèse chapitre 26, qui passait son temps dans la méditation de la parole de Dieu. Isaac, au moment où il se lève pour partir en Égypte, il entend la voix du Saint-Esprit qui lui dit, tu vas où? Reste ici et sème ici. Quelqu'un d'immature aurait dit, ah, est-ce moi là? Non, on va en Égypte, on va dans le monde. Quelqu'un qui est catartizo, qui est assis dans les choses de Dieu, sait reconnaître la voix du Saint-Esprit et dire, si Dieu me dit de semer ici, c'est qu'il veut faire, il veut me bénir. Isaac a semé et la Bible dit qu'il devient très riche. Très riche. Parce qu'il était mature dans les choses de Dieu. Amen. Les païens cherchent d'abord leur confort personnel et la plupart des besoins élémentaires de la vie, manger, boire, se vêtir, la sécurité, la prospérité matérielle. Qu'est-ce que les païens cherchent? Vous avez déjà tous entendu parler, pour ceux qui se souviennent à l'école, de la pyramide de Maslow. Hein? Vous avez déjà entendu parler de cette pyramide-là? Cette pyramide-là, soi-disant, nous expose les besoins inhérents à la nature humaine, les besoins élémentaires. Tout d'abord, on a les besoins physiologiques. C'est quoi? Dormir, manger, boire, s'habiller. C'est les premiers besoins que quelqu'un cherche dans la vie. Amen. Ensuite, les gens cherchent la sécurité. Les gens cherchent absolument la sécurité. Le sujet de la sécurité sera toujours un sujet à la mode. Parce que les gens, quand ils ne se sentent pas en sécurité, en ce moment dans le monde, les gens ne se sentent pas en sécurité. Voilà, on a enlevé la femme d'un politicien au Cameroun, la secte de Boko Haram, etc. Oh, conseil des ministres, tout le monde tremble dans le pays parce qu'on dit que si ces gens-là viennent, ils vont aussi tous nous enlever. Ou bien ils vont faire mal aux Gabonais, etc., etc. Nous, enfants de Dieu, comment est-ce qu'on doit réagir par rapport à ça? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention et qu'il ne faut pas prêter attention à ce genre d'informations. Non. Voilà, il y a Ebola. Ebola, il ne faut plus prendre l'avion. Attention quand vous montez dans le bus. Dès que tu montes maintenant dans le bus, quelqu'un te touche. Ne me touche pas. Ebola. Hein? Comment nous, on doit réagir? On doit rester serein. Je vais vous raconter une histoire qui m'a bien fait sourire. Il y a un singe qui se balade dans la forêt. Et là, il trouve sur son chemin un gros lion qui est là sur son chemin. Le lion reste sur le côté. Le lion est censé manger le singe. Et le singe joue les malins et il commence à insulter le lion. Espèce de vilain lion! Espèce de lion bête que tu es! Le lion ne réagit pas, le lion le regarde seulement de loin. Espèce de vilain! Il prend les cailloux, il jette au lion. Et le lion reste sur place, le lion ne le regarde pas. Le singe ne comprend toujours pas, il prend encore un autre caillou, il lance encore. Le lion esquive. Et puis le lion lui dit, mais tu penses que je vais venir te voir là-bas? Tu penses que je ne sais pas que tu es beau là? Je te laisse mourir là-bas tout seul, moi je ne viens pas. Tout le monde sait que tu es beau là. Non, je ne viens pas. Gloire à Dieu. C'était pour rire. Tout le monde cherche les besoins élémentaires de la vie. Dormir, manger, boire, la sécurité, besoin d'appartenance, la famille, le mariage, toutes ces choses-là. Besoin d'estime de soi, tout ce qui touche au respect de soi-même, au prestige. Tu verras que demain, quand tu vas commencer à gagner beaucoup d'argent, même si tu n'en as pas besoin, tu vas quand même aller t'acheter la grosse voiture. Pourtant, tu n'en as pas besoin. Parce que tu as besoin de te sentir à l'aise dans une grosse voiture. Pourtant, ça ne change la vie de personne. Et même quand tu roules dans ta grosse voiture, personne ne te regarde. Il n'y a que toi-même qui regarde ta voiture. Nous, on est dans notre taxi sous le soleil. Besoin d'accomplissement. Tout ce qui touche à la carrière professionnelle. Il n'est pas marqué que dans la vie, au niveau professionnel, on a toujours envie d'aller plus loin, faire plus, gagner plus d'argent, etc. Tout ça, ce sont les besoins qu'un mondain a exposés pour les gens du monde. Nous, les enfants du royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Notre besoin élémentaire à nous, les enfants du royaume de Dieu, ce n'est pas dormir, manger, boire, besoin physiologique, ou bien sécurité, appartenance, etc. Ce n'est pas ça. Nous, c'est ça. Notre besoin élémentaire, principal et basique et premier, c'est le royaume de Dieu. Dis avec moi le royaume de Dieu. Jésus-Christ dit, tous les besoins primaires là, qu'on vient d'exposer là, ne cherchez pas ça. Cherchez le royaume. Parce que celui qui a pour fondement dans sa vie le royaume de Dieu, Il a ce qu'on appelle la santé spirituelle. Il est en bonne santé spirituelle. Et quand tu es en bonne santé spirituelle, là, Jésus-Christ dit, tous les besoins, manger, boire, sécurité, appartenance, etc., tout ça là, tu auras ça. Amen. Va pas fonctionner comme les gens du monde. Fonctionne comme Jésus-Christ a dit, cherche d'abord le royaume. Et tu seras en bonne santé spirituelle. Et quand tu es en bonne santé spirituelle, quelle que soit la situation par laquelle tu peux passer, tu seras dans la paix. Parce que tu sais que l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit vers des eaux paisibles, il me fait marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car sa houlette me conduit et son bâton me protège. Gloire à Dieu. Dis avec moi encore la maturité spirituelle. Quel est le but de la maturité spirituelle? Romains 8 au verset 29 nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Il les a prédestinés. Prédestinés, ça veut dire quoi? Il les a préparés avant. Depuis longtemps, il est en train de les préparer. Depuis longtemps, Dieu est en train de te préparer pour que tu sois catartizo, pour que tu arrives à la perfection parfaite, à la stature parfaite de Christ et que tu puisses entrer en possession de ton héritage. Et le but de la maturité spirituelle, c'est cela, c'est de devenir semblable à Jésus-Christ. Amen. C'est ce qu'on doit poursuivre en tant qu'enfant de Dieu. Tous les jours, au lieu de poursuivre les choses du monde, on doit poursuivre Jésus. Et c'est ça la maturité. Quand Dieu voit quelqu'un qui poursuit les choses du monde, Dieu dit, ça c'est un enfant. Mais quelqu'un qui poursuit les choses du royaume, quelqu'un qui poursuit l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui poursuit Dieu, c'est quelqu'un qui grandit très vite et à qui Dieu se révèle. Rappelez-vous toujours Jérémie 29 au verset 13. Je me révèle à ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Je ne me révèle pas à n'importe qui. Dès le commencement, dès la nouvelle naissance, le plan de Dieu, dès le commencement plutôt, le plan de Dieu a toujours été de nous rendre semblables à son fils Jésus. Le plan parfait de Dieu, c'est qu'on soit comme son fils. Qu'on soit comme Jésus. Tout le plan de Dieu dans la vie du croyant est de l'amener à croître spirituellement pour qu'il devienne mature. Et le but ultime est que le croyant puisse atteindre la stature parfaite de Christ qui lui donnerait accès à son héritage dans le royaume. La version parole vivante du même verset dit « En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'ils soient l'aîné d'une nombreuse famille de frères. » Amen. Donc, une fois dans ce plan divin, quand on est de nouveau, automatiquement, on entre dans un processus de transformation au travers duquel Dieu commence à nous façonner. Comme le potier. Et à la fin de ce processus de transformation, on est comme Christ. Amen. Et ce que j'ai envie de nous dire, et là on commence à rentrer, c'est que la transformation par laquelle on doit passer pour arriver à la maturité spirituelle n'est pas quelque chose de plaisant. C'est quelque chose de très douloureux. Le processus de croissance a pour but d'amener l'enfant de Dieu à devenir un fils mature. Pourquoi? Parce que seuls les fils jouissent de l'héritage. Mais pour ça, il va devoir accepter la transformation. Paul nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 2, « Laissez-vous transformer par quoi? Le renouvellement de votre intelligence. » Dis avec moi la transformation. Que tu n'es pas transformé, tant que tu n'es pas fini, catartizo, parfait, tu ne peux pas entrer en possession de l'héritage.
pour pouvoir entrer en possession de l'héritage en Christ, pour pouvoir expérimenter les joies de Dieu, tu dois accepter d'être transformé. Et c'est là maintenant que le problème commence. C'est que beaucoup d'enfants, beaucoup de chrétiens ne se laissent pas changer. Si tu es un chrétien dans l'église depuis des années et que tu vois que tu n'as toujours pas beaucoup changé, tu n'as toujours pas beaucoup évolué, c'est que le processus de transformation n'est pas encore en marche dans ta vie. Imagine que tu as préparé beaucoup d'argent sur un compte bancaire pour ton enfant. Tant que cet enfant n'a pas atteint la majorité, l'âge de 18 ans, il ne peut pas entrer en possession de cet argent. Parce que si tu as dit à la banque que vous donnez cet argent seulement quand il a 18 ans, l'enfant pourra venir pleurer, monter, descendre, on ne lui donnera pas cet argent tant qu'il n'aura pas 18 ans. Parce que tout simplement, de 0 à 18 ans, c'est un processus de croissance et de transformation par lequel il doit passer pour être mature et prendre possession de cet argent. Amen. De même, dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas jouir pleinement de ton héritage en Christ tant que tu ne parviens pas à la maturité spirituelle. Il y a des dimensions spirituelles dans la vie. Il y a des percées spirituelles dans la vie. Il y a des grâces spirituelles dans la vie que l'on ne peut pas connaître tant que notre intelligence et notre vie même n'a pas été transformée par Christ. Il y a des choses qu'on ne peut pas expérimenter. Il y a des sagesses, des connaissances dans lesquelles on ne peut pas entrer. La quantité du liquide dépendra de la capacité du vase à recevoir. Si le vase est trop petit, Dieu ne peut pas déverser. Plus le vase est important, plus on peut déverser. Oui? Il y a des révélations dans la vie que l'on ne peut pas acquérir si on n'est pas, on ne peut pas les recevoir. C'est pour cela que j'aime dire toujours cette phrase, il vaut mieux une révélation que 10 000 prédications. Il vaut mieux une révélation de Dieu que 10 000 prédications. Parce que la révélation, quand elle arrive, elle transforme toute ta vie. Mais il y a des gens, ils entendent beaucoup de choses, mais le vase est trop petit. Mais quand tu reçois la révélation, qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Elle te fait grandir. Et quand elle te fait grandir, tu peux recevoir encore plus. C'est pour cela que on est toujours étonné de voir des serviteurs de Dieu. Vous dites, mais comment il fait pour trouver des choses pareilles? Mais parce que le vase est grand. Donc Dieu déverse. C'est pareil encore, même pour l'argent. Tu peux monter des sommes, il y a des sommes d'argent que tu ne pourras pas recevoir tant que le vase de l'intelligence financière n'est pas suffisamment large. Vous n'avez jamais entendu des histoires de gens qui ont gagné tout d'un coup des milliards ou des millions au loto ou bien à des jeux de hasard et puis en quelques mois ou en quelques années, boum, ils ont tout dilapidé et puis ils se retrouvent pauvres comme avant? Parce que tout simplement, quand le vase est petit et puis tu prends la grosse bouteille d'eau et puis tu mets, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde, ça se gaspille. C'est pareil, tout d'un coup tu reçois boum, richesse, mais le vase est trop petit, boum, ça déborde. Mais quelqu'un qui est large au niveau de son intelligence financière, quelqu'un qui s'est préparé, celui qui est catartizo, quand l'argent arrive, il peut maintenir et puis il gère et puis il fait prospérer ça. Est-ce que vous me suivez? Dis avec moi, catartizo. Oh, et t'as su ça, j'ai reçu ça à 3 h du matin. La transformation est toujours douloureuse, mais elle est bénéfique. Amen. Elle est bénéfique. Toute transformation est toujours douloureuse. Elle n'a rien d'agréable. Elle n'a rien d'agréable. Quand on transforme quelque chose qui est figé, quelque chose qui est figé, quand on veut le transformer, en général, et on est obligé de forcer. Et quand on force, il y a des cassures, il y a des craquements. C'est pour ça que les enfants de Dieu qui ne qui refusent le changement dans leur vie. Quand Dieu dit, je vais te changer, mais comme tu ne veux pas te laisser faire, bon, et puis on dit, les autres, c'est cathartiso. Le but, c'est qu'à la fin, tu prennes la forme qu'il faut. Tu prennes la forme. Vous savez, la Bible dit, hein, dans le premier livre de Pierre, que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes, chacun d'entre nous, nous sommes des pierres vivantes, que Dieu utilise pour bâtir son édifice, sa maison. Dieu veut finir sa maison, comme toi tu voudras finir ta maison. Et quand Dieu va t'attraper, la pierre que tu es, la brique que tu es, quand il voudra la faire rentrer là, ou la poser, si tu n'as pas la forme, qu'est-ce qu'il fait? Il casse. Il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres. Catartise. Jusqu'à ce que tu... Si tu ne te dépêches pas d'arriver à la maturité spirituelle rapidement, Dieu va casser. Il y en a qui subissent des problèmes dans leur vie. Ils se disent toujours pourquoi Dieu permet ça dans leur vie. C'est parce qu'ils ne sont pas catartisés. Ils ne sont pas finis. Regardez. Jésus nous donnait des révélations sur ces choses-là. Les gens ne comprenaient pas pourquoi ils avaient autant de problèmes. Et Jésus donnait des révélations. Dans le livre de Luc, au chapitre 13, à partir du verset 6, je crois, la Bible du vigneron et de sa vigne. Vous ne vous rappelez pas? Un vigneron, maître de la vigne, vint chercher du fruit dans sa vigne et il n'en trouva pas. Et il dit à celui qui prenait soin de la vigne, il dit, mais pourquoi cette vigne ne porte-t-elle toujours pas de fruit au bout de 3 ans? Et regardez ce qu'il dit. Cette vigne occupe la place inutilement. Coupe-la et jette-la au feu. Le vigneron supplia le propriétaire de la vigne en disant, Seigneur, attends, je vais y rajouter du fumier. Je vais rajouter du fumier, Seigneur. Peut-être que l'année prochaine, il y aura du fruit. Vous savez, c'est quoi le fumier? Le fumier, c'est quelque chose... Le fumier, c'est les excréments des animaux. Ça pue, ça sent mauvais. C'est pas agréable du tout. Donc, quand tu ne veux pas te mettre en ordre de marche dans la volonté de Dieu pour ta vie, le propriétaire dit, coupe-le celui-là, jette-le au feu. Et Jésus-Christ dit, non, attends, je vais mettre le fumier jusqu'à ce qu'il porte du fruit l'année prochaine. Et il envoie les épreuves, il envoie les problèmes, et puis c'est caille de taille jusqu'à ce que tu rentres, jusqu'à ce que tu deviennes mature. Dis avec moi, catartiso. C'est pour cela qu'à la maison du bâtisseur, on parle maintenant du processus de croissance du leader, le PCL. Vous connaissez? Le processus de croissance du leader est un processus par lequel on entre dans l'église, quand on arrive à l'église, et le but, c'est qu'on sorte de ce processus-là, catartiso. Et ça prend du temps, hein? Le processus de transformation d'une personne, ça prend beaucoup de temps. Et tant que la personne n'est pas prête, elle ne sort pas du processus. Tout comme BMW, quand ils préparent leur BMW, ils peuvent mettre 10 ans pour sortir la prochaine gamme. Tant que la voiture n'est pas prête au sortir du processus, elle ne sort pas. Il faut qu'elle soit prête. Et de même, il y en a, ils sont toujours dans le processus. D'une certaine manière, on est toujours dans le processus. Amen. Mais il y a un niveau de maturité auquel on doit arriver pour commencer à expérimenter un certain nombre de choses avec Dieu. Et désormais, à la maison du bâtisseur, tout disciple, toute personne engagée dans l'Église devra assimiler cette doctrine-là. Il y a plusieurs doctrines dans une Église. Mais la doctrine de catartiso devra être une doctrine qu'on connaît à la maison du bâtisseur. Chaque église à ses familiarités. Et quand quelqu'un arrivera à la maison du bâtisseur demain, cathartizo par-ci, cathartizo par-là. Toi, tu n'es pas cathartizo. Il ne faut pas aller insulter quelqu'un maintenant comme ça. Hein? Non. Mais les gens vont dire, mais cathartizo, là, c'est quoi votre mot cathartizo là? Cathartizo, c'est le processus, c'est la transformation du leader. Et ah bon, la transformation du leader. Tu es appelé à être un leader demain, non? Tu ne l'es pas encore, tu es un leader en gestation. Ok. Et comment on fait alors pour être transformé, pour être cathartizo? Ben, tu passes par le processus de croissance du leader, le PCL. Ah bon? C'est quoi le processus de croissance du leader, le PCL? Eh bien, c'est ça. Fondement du royaume, maturité, leadership et ministère. Amen. Amen. Les fondements du royaume consistent simplement à acquérir les fondements du royaume de Dieu. C'est le premier niveau. La maturité consiste à acquérir les 7 piliers de la maturité spirituelle. Troisième niveau, découvrir son leadership et libérer son potentiel en Christ. Et quatrième niveau, entrer, le niveau ministère, entrer dans son appel et accomplir sa destinée en Christ. Dis avec moi, cathartizo. Ça, c'est un processus par lequel le leader, dans le cadre de l'Église, passera. Et Dieu m'a mis à cœur que, fils, toutes les personnes qui sont appelées à être leaders dans l'Église doivent passer là. Personne ne fera exception. Parce que celui qui ne passe pas par ça, il va sortir au bout de la chaîne avec des défauts. Et si on le met sur le terrain, on va être obligé de le rappeler à l'usine parce qu'il risque de faire des accidents. On est en perpétuelle transformation. Amen. On est en perpétuelle transformation. Mais il y a quand même des fondamentaux qui sont très importants dans la vie chrétienne. Donc, vous là, qui fuyez là, les fondamentaux là, on va vous cathartiser tôt ou tard. Gloire à Dieu. Et cette transformation, bien entendu, elle n'est pas agréable. Elle demande des efforts, comme nos champions et nos championnes qui ont pris le temps de faire pendant 2 mois et demi des cours fondements. Ils savaient que ce n'était pas évident de venir tout le temps le samedi matin, etc., etc. Mais ils ont appris des choses qui ont changé leur vie. Ils comprennent beaucoup de choses maintenant. Il y en a, quand on faisait l'examen hier à l'oral, quand je posais des questions, j'ai vu que certaines questions, ils avaient compris. Mais je sais que 2 mois avant, ils ne comprenaient pas. Il y en a, ils faisaient même du par cœur, tellement c'était rentré là. Donc, tu ne peux pas accomplir de grandes choses avec le Seigneur sans faire des sacrifices. Un leader, c'est quelqu'un qui est accoutumé à un mot, le mot sacrifice. Dis avec moi, sacrifice. Parce que la transformation va demander des sacrifices. Jésus-Christ a dit dans Marc 8, au verset 34, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il renonce, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer là, à lui-même, gars, c'est pas facile, hein? L'histoire de renoncer là. À quoi dois-tu renoncer pour suivre Jésus? Tiens donc, je me suis posé la question. À quoi dois-tu renoncer pour suivre Jésus? Premièrement, tu dois renoncer à ta vie. Tu dois abandonner ta vie entre les mains du Seigneur. C'est la première chose. Deuxième chose, ton argent. Tu dois renoncer à tout désir d'enrichissement personnel. Pourquoi je mets l'argent là? Parce que l'argent, c'est quelque chose que les gens poursuivent dans la vie. Et les gens sont prêts à tout pour s'enrichir dans la vie. Ils sont prêts même à vendre leur âme. Mais pour suivre Jésus, tu dois abandonner ça. Pour suivre Jésus, tu dois abandonner tes projets. Tu dois renoncer à tes projets pour réaliser les projets de Dieu pour ta vie. La Bible dit dans Proverbe 19, au verset 21, que l'homme a beaucoup de plans ou encore de projets dans son cœur, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui se réalisent. Donc, comment ton dessein, ce sont les desseins de l'Éternel qui vont se réaliser. Tes rêves, tu dois renoncer à tes rêves personnels pour les rêves de Dieu dans ta vie. À quoi dois-tu encore renoncer? 5. Tu dois renoncer aux relations du monde. Tu dois renoncer aux relations du monde pour bâtir des relations inspirées de Dieu dans le royaume. Il y a des relations que tu as tissées et bâties dans le monde. Des relations amoureuses, relations familiales. La famille, c'est quelque chose de très important. Mais il y a des gens dans ta famille, voire même des parents, qui sont des freins pour ta croissance spirituelle. Et tu dois t'en séparer. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, celui qui ne renonce pas à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, n'est pas digne de me suivre. Il y a des relations familiales, personnelles, quelles qu'elles soient, tu dois y renoncer. C'est pour cela que quelqu'un qui est cathartiso, quelqu'un qui est passé par le processus de transformation, c'est quelqu'un, dès qu'il voit une relation qui le bloque dans les choses de Dieu, il dit, bon, gars, toi là, c'est fini maintenant, toi et moi. C'est pour cela qu'il y a une relation, dans ma vie aujourd'hui, la personne s'étonne que je ne la rappelle pas. Et pendant quelques instants, pendant quelques jours, j'ai un peu... Je me suis dit, ah, c'est pas bien, il faut quand même rappeler quand même. Mais Dieu m'a dit, cathartiso fils, le royaume en premier, la personne-là, qu'est-ce qu'elle t'apporte pour faire avancer le royaume? Assieds-toi, prends un stylo et une feuille et écris-moi ce que cette personne apporte de positif pour l'avancement de mon œuvre. Ben, je vois rien, Seigneur. Alors, tu l'es, Vince. C'est dur, hein? Mais la vie est courte, mon ami. Tu dois te concentrer sur l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et les gens qui te retardent, tu dois les laisser. À quoi dois-tu encore renoncer? 6. À l'appel du monde. Dis avec moi l'appel du monde. Tu dois renoncer à l'appel du monde pour obéir à l'appel de Dieu pour ta vie. Le monde appelle, hein? Ah, le monde appelle. Le monde appelle par toutes sortes de propositions compromettantes, etc. Le monde appelle. 7. Tu dois renoncer à l'amour du monde. Tu dois renoncer à l'amour du monde pour suivre Jésus qui t'a aimé le premier. Amen. Premier livre de Jean au chapitre 2, verset 15, il dit, « N'aimez pas le monde, car Dieu et le monde ne sont pas amis. » Il y a inimitié entre Dieu et le monde. Et tu dois te séparer de cela. Donc la grande question, et on va finir avec ça, c'est de savoir comment cette croissance spirituelle peut se faire et comment devenir mature en Christ. Je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer. Mais bon, on va commencer. Et puis, si on ne termine pas, on continuera la semaine prochaine. Comment est-ce qu'on peut enclencher cette transformation spirituelle-là dans notre vie? Mais avant de voir cela, je vais d'abord prendre le temps d'exposer 6 fausses idées reçues au sujet de la maturité spirituelle. Parce que quand on parle de maturité spirituelle, ce n'est pas tout le monde qui comprend la même chose. La première fausse idée en ce qui concerne la maturité spirituelle, c'est que premièrement, la croissance spirituelle ou encore la maturité spirituelle est automatique dès qu'on est de nouveau dans le royaume. Beaucoup de gens pensent ça. Beaucoup de gens pensent que dès qu'on donne sa vie à Jésus, automatiquement on va grandir. Faux. Beaucoup de gens, même des pasteurs, croient que c'est en allant à l'église qu'on grandit automatiquement. Ce qui est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est en venant, par exemple, le dimanche à l'église qu'ils vont grandir. Ils pensent que c'est en donnant leur vie à Jésus, en venant à l'église, en prenant de bonnes habitudes, venir à l'église, qu'ils vont grandir. Ce n'est pas suffisant, voire faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vérité, c'est que la croissance spirituelle n'est pas quelque chose d'automatique. Elle n'est pas quelque chose d'automatique. Quelqu'un peut être membre d'une église depuis des années et ne pas être mature spirituellement. S'il n'est pas passé par un processus de formation et de transformation, c'est normal qu'il ne puisse pas grandir. Il doit accepter de se laisser transformer. Et la croissance spirituelle part d'abord d'un désir personnel de vouloir grandir et de faire des efforts. J'ai pour habitude de dire que le succès est une décision. Décide de ce que tu feras de ta vie, sinon quelqu'un d'autre le fera pour toi. Si tu ne te décides pas à grandir, tu vas vivre au rythme de ce que d'autres personnes diront de toi. Et la vie, c'est très facile de vivre en fonction des opinions des autres. Mais au nom de Jésus-Christ, sois délivré de l'opinion des gens au nom de Jésus. Amen. Amen. Beaucoup de gens dans les églises, par exemple, dépendent des pasteurs. Ils se disent que parce qu'ils sont... Vous n'avez pas remarqué ça dans les églises? Il y a des gens, parce qu'ils sont proches du pasteur, ils se prennent plus matures que les autres. Ils veulent me nommer, ils gonflent. Parce que moi, je connais le pasteur, donc je suis plus mature que toi. Si tu n'es pas kata tisola, pasteur ou pas pasteur, tu restes un bébé. Oui. Le pasteur, oui, est quelqu'un qui peut avoir un droit de regard sur la vie de quelqu'un. Mais ce n'est pas le pasteur qui transforme la personne. C'est la parole de Dieu mise en application dans la vie de la personne qui va la transformer. C'est sa relation personnelle avec Jésus-Christ qui va la transformer. C'est sa communion avec le Saint-Esprit tous les jours qui va la transformer. Philippiens 2, verset 12, Paul nous dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Si tu ne veux pas prendre la décision de grandir, tu ne grandiras pas. Amen. La deuxième fausse idée, c'est que la croissance spirituelle, beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose de mystique. Ils pensent que c'est juste réservé aux gens qui sont dans le mysticisme, ou bien qui ont reçu une onction particulière, etc. Beaucoup pensent que la croissance spirituelle ou encore la maturité spirituelle, c'est par exemple des gens qui ont une relation particulière avec Dieu, des pasteurs, des hommes de Dieu, etc. Donc on leur laisse ça à eux, la croissance spirituelle, la maturité spirituelle, et puis nous on est là, on ne grandit pas. Faux! La vérité c'est que la croissance spirituelle est quelque chose d'accessible à tout le monde et de pratique. Si tu pratiques ça, si tu cherches ça, qui que tu sois, tu vas l'atteindre, la croissance spirituelle. Amen! Comment? Par des habitudes très simples, telles que la méditation de la parole de Dieu, la Bible, la prière, le jeûne, aller à l'église, servir à l'église, faire partie d'un groupe de maison, d'un petit groupe, d'un groupe de disciples, écouter des enseignements bibliques, s'instruire en lisant des livres chrétiens, avoir une vie d'adoration, tout ça, ce sont des habitudes qui permettent de favorisent la transformation du leader, qui favorisent la transformation du croyant. Amen. Et développer de telles habitudes au quotidien, dans sa vie, est une garantie sûre pour grandir. Troisième fausse idée que les gens ont, c'est que la croissance spirituelle est quelque chose d'instantané. Beaucoup pensent aussi que c'est une expérience qui va les amener à grandir d'un coup. Beaucoup pensent qu'une expérience de la vie va les amener à grandir d'un coup. Et ça aussi, c'est faux. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont d'église en église, de conférence en conférence, de prophète en prophète, pour qu'on leur impose les mains, pour qu'on prophétise sur eux, pour qu'ils reçoivent des bénédictions, et puis se dit boum, boum, oh, j'ai reçu, c'est fini, j'ai grandi. Je suis mature spirituellement, je suis arrivé, je suis catartizo. Faux! Tu peux aller même voir Béni, il va te gifler avec sa veste, tu vas rester la même personne. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Oui, il y en a que Béni, il a giflé avec la veste. Il prend la veste, boum, ah. Tu dis, oh l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse, mais il t'a quand même fait mal. Hein? Hein? Donc, c'est pour ça que certaines églises qui en ont fait un business se focalisent sur ces choses-là. Certaines églises en ont rien à faire de ta croissance spirituelle, mais vraiment, mais rien à faire. Tout ce qui les intéresse, c'est que tu sois là et que tu fasses ce qu'ils veulent. Ce sont les églises que j'appelle « venez recevez ». Recevez, 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 recevez. Venez recevoir la double portion. Venez recevoir l'onction. Venez recevoir la guérison. Venez recevoir, recevez, recevez, recevez. C'est pour ça que quand les gens ils arrivent dans les églises, ils sont toujours dans une attitude de recevoir. Quand on leur parle de servir dans l'église, de faire des choses dans l'église, ils disent, oh Joe, laisse ça. Sois présent à l'église, fais des choses, aide à faire avancer l'église. Non, ils viennent, mettent dans les poches et puis s'assoient. Alors, le culte commence quand là? C'est pas ça l'église. L'église, c'est une association de plusieurs personnes qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Amen. Recevez, recevez. Non, la vérité, c'est que la croissance spirituelle, pour arriver à la maturité, ça prend du temps. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et cette croissance peut vraiment s'accélérer quand la personne accepte ou encore se dispose à recevoir de l'aide, un accompagnement, des enseignements, etc., etc. Amen. Le processus de croissance du leader, il est très important parce qu'en passant par là, on accepte de recevoir la parole de Dieu par des enseignements pour pouvoir changer. Quatrièmement, la croissance spirituelle se mesure, beaucoup pensent, par la quantité de connaissances qu'ils ont de la Bible. Beaucoup pensent que parce qu'ils connaissent beaucoup la Bible, ils connaissent la Bible par cœur, que ça va les amener à la maturité spirituelle. Faux! On voit par exemple aujourd'hui beaucoup de pasteurs qui connaissent très bien la Bible, mais pourtant qui se comportent comme des enfants. Amen. Regardez ce que Paul nous dit dans 2 Timothée 3:1. Paul nous dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Éloigne-toi de ces hommes-là. En gros, pour dire ça avec le sourire, c'est pas parce que quelqu'un vient avec des costumes, la cravate qui brille, la chaussure très pointue là, et puis la grosse montre là, que ça veut dire que c'est quelqu'un de pieux. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut pas dire qu'il est mature. La vérité, c'est que la croissance spirituelle ou encore la maturité se démontre plus dans le comportement de la personne. C'est dans le comportement que l'on arrive à voir si quelqu'un est mature ou pas. Dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Amen. Jacques nous dit, livre de Jacques au chapitre 2, verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? » N'est-ce pas ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre eux leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il alors ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Avoir beaucoup de connaissances de la Bible ne garantit pas que tu es quelqu'un de mature. Lire la Bible, méditer la parole de Dieu, c'est quelque chose de très important. Mais ça ne veut pas dire que tu es mature. Beaucoup de gens connaissent la Bible par cœur. Mais quand vous voyez comment ils se comportent, vous vous demandez, mais tous les versets qu'ils connaissent, là, ils mettent ça où? Un Corinthiens 8 nous dit encore, nous savons que nous avons tous la connaissance. Et Paul rajoute, mais la connaissance offre, mais l'amour édifie. La priorité, c'est l'amour, ce n'est pas la connaissance. Parole vivante nous dit, nous sommes tous des gens éclairés, dites-vous, et nous possédons la connaissance voulue. C'est entendu, mais la connaissance seule inspire souvent des sentiments de suffisance. La suffisance, celui qui, ce qu'il connaît. Bonjour pasteur.
Bonjour.
Ce qu'il connaît. Suffisance. Le savoir rend orgueilleux. Orgueilleux. Tandis que l'amour est constructif. C'est lui qui bâtit l'église parce que celui qui aime aide les autres à croître dans la foi. Amen. Ce sont des versets très importants. Et quand on parle de maturité spirituelle, ce sont des passages qu'il faut connaître. Cinquièmement, avant-dernier point, c'est que la croissance spirituelle est quelque chose de personnel et privé. Beaucoup pensent ça. Ils pensent que la maturité spirituelle, ça se vit seul dans son coin. En restant seul, chacun dans son coin, chacun va grandir dans son coin. Faux! Et de nos jours, les gens qui ont acquis la mentalité occidentale là sont très individualistes. Les gens préfèrent rester seuls et ne veulent pas qu'on se mêle de leur vie. Ils viennent à l'église, mais ils refusent de s'ouvrir aux gens. Beaucoup d'enseignements poussent les gens même à davantage s'intéresser à eux-mêmes. On vend aujourd'hui beaucoup de choses aux gens qui les rendent encore plus individualistes, alors que la véritable vie chrétienne, est une vie où on est interdépendants les uns des autres. Et la croissance spirituelle, on grandit quand on est en contact avec les autres. Parce que l'Église, c'est une famille. C'est pour ça qu'un chrétien qui est toujours seul dans son coin, pour moi, c'est un chrétien qui n'est pas bien. Un chrétien normalement constitué est quelqu'un qui aime rester avec d'autres chrétiens. Un chrétien anormalement constitué est quelqu'un qui aime rester, par exemple, avec les païens. Un chrétien qui reste avec les païens tout le temps. Si ce n'est pas pour les évangéliser, je ne sais pas ce que tu fais avec eux. Si tu restes avec les païens, très souvent, tu dois trouver un moyen de les évangéliser. Si tu ne les évangélises pas, alors tu n'as rien à faire avec eux. Parce que ton seul objectif, c'est d'en faire des disciples de Christ. C'est ton seul objectif. Amen. Acte 2, 42 nous dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Hébreux 10, 24 rajoute encore, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. » Attends, je répète ça. « N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. » Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous soyez approchés le jour, que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Ton assemblée, ton église, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ta vie. Ton église. Il y en a, ils sont à l'église, et puis du jour au lendemain, boum, tu vois, il est parti. Tu dis, oh, mais le frère, c'est quel problème? Pourquoi tu es parti? Oh, pasteur, je ne sens plus. Oh, tu ne sens plus quoi? Je ne sens plus. Bon, ok. J'espère que l'autre ne va pas mieux te sentir là-bas, parce que s'il te sent là-bas, c'est ça. Et enfin, dernier point, on va finir avec ça, le dernier point. Beaucoup pensent, sixièmement, que l'étude de la Bible suffit pour atteindre la maturité spirituelle. Faux. Beaucoup pensent que c'est en lisant la Bible tous les jours qu'ils grandiront. Bien entendu, la méditation de la parole de Dieu est quelque chose de très important pour grandir. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que beaucoup lisent la Bible, mais ne s'intéressent pas à l'aspect émotionnel de la vie qui se construit plus par les expériences de la vie. La Bible nous enseigne des choses, mais l'école de la vie aussi nous enseigne beaucoup de choses. Il y a des choses que tu ne liras jamais dans la Bible, mais c'est les expériences de la vie qui vont t'apprendre ça. Amen. Et la vérité, c'est que la maturité spirituelle est aussi le résultat de plusieurs expériences personnelles qui forgent notre foi et notre caractère. Il faut lire et méditer la Bible, mais il faut aussi se laisser enseigner par les expériences de la vie. Amen. Et la véritable maturité spirituelle consiste à louer Dieu, adorer le Seigneur, mettre ses dons et ses talents au service des autres et partager sa foi avec les perdus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va incliner la tête. Merci. Je voudrais que tu puisses élever la voix, recommander ta vie entre les mains du Seigneur et prier. Demande-lui de te faire croître spirituellement. Demande-lui de t'accorder la grâce de comprendre les choses que nous partageons. S'il y a des habitudes, de mauvaises habitudes qui ont été installées dans ta vie et qui t'ont empêché de grandir, demande à Dieu de te faire grâce pour que tu puisses croître spirituellement. Seigneur, merci encore pour la révélation de ta parole qui édifie et qui donne de l'intelligence aux simples. Merci encore pour ta sagesse. Merci Père pour l'œuvre que tu as commencé dans nos vies et que tu rends parfaite. Merci parce que tu nous fais comprendre l'importance de se laisser transformer jusqu'au plus profond de notre être, Seigneur, de nous laisser transformer, de nous laisser catartiso, de nous laisser, Seigneur, profondément, Seigneur, transformer par la puissance de ton esprit pour parvenir à la maturité spirituelle. Père, merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur. À toi soit la gloire et à toi soit la louange, Seigneur. Je te bénis et je te loue, Père de grâce, pour ta parole, Seigneur, qui est lancée tel un javelot dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que cette parole, Seigneur, oh Dieu, amènera chacun de tes enfants, Seigneur, à croître en stature, en grâce et en sagesse et à devenir, Seigneur, des hommes parfaits, des hommes faits, des hommes équipés, des hommes pleinement disposés, des hommes et des femmes pleinement équipés pour entrer en possession des promesses auxquelles, Seigneur, tu nous prépares, Seigneur, à la conquête des promesses. Quel est le message, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur? Certes, peut-être cette conquête ne prendra pas juste un an. Peut-être qu'elle prendra 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais Seigneur, nous te supplions. Nous prions, Père, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'entrer pleinement en possession de nos promesses et d'être des hommes matures spirituellement. Seigneur, de refléter le caractère de Christ. Car c'est à cela que tu nous as destinés, à être semblables à l'image de Jésus-Christ, ton Fils, le premier-né d'une grande famille de frères et de sœurs. Seigneur, merci encore, Père, pour ta parole. Merci pour la révélation qui illumine encore les yeux de nos cœurs et qui nous amène davantage à être plus proches de toi et à être des fils matures spirituellement, Père de grâce. À toi soit la gloire et à toi soit la louange. Continue encore de nous conduire, de nous révéler ta parole. Continue encore de nous guider, de nous emmener de gloire en gloire et de progrès en progrès, dans la révélation de ta parole pour que, Père de grâce, ton église soit une église mature. Prête, Seigneur, prête pour les expériences de la vie, prête pour, Seigneur, faire avancer ton royaume ici-bas sur terre. À toi soit la gloire et la louange, Seigneur. Reçois encore favorablement, Seigneur, les paroles de nos bouches. Reçois favorablement, Seigneur, nos actions de grâce, notre louange, notre adoration et nos acclamations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen et acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur.
Espérons que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.